Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Bon, ben, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va parler des réouvertures des salles de sport, encore une fois, avec un constat assez triste, malheureusement. On va parler également de fatigue au volant et alimentation. On va parler de manger mieux en regardant des vidéos de cuisine saine. On va parler des neurosciences liées à la perte de poids et on va argumenter un petit peu toutes ces petites sources de contenu que j'ai trouvées à droite et à gauche. Voilà. Bon, ben vous le savez, c'est l'actualité que je trouve intéressante à vous partager. Et ben avant de démarrer l'épisode du jour, deux choses. La première, c'est que j'aimerais que vous me disiez en commentaire, alors sur YouTube évidemment, il y a que là où on peut commenter, sous le podcast si vous l'écoutez sur YouTube évidemment. Sinon, vous allez faire un saut sur ma chaîne YouTube, c'est Fitness Smith, et puis vous retrouvez l'épisode en question et vous mettez le commentaire sous l'épisode, de savoir si la salle où vous vous entraînez, où vous êtes retourné vous entraîner depuis la semaine dernière, ou même la semaine d'avant, je me rappelle plus, ça a réouvert depuis quand, 15 jours, je crois, un truc comme ça. Vous avez constaté qu'il y a du monde, pas beaucoup de monde, etc. Est-ce que c'est la cohue ou pas? Donnez un petit peu votre point de vue par rapport à ça. Bon, et la deuxième chose, c'est que ce week-end, moi, j'ai sorti quelque chose pour vos abdos. Donc, ça s'appelle Spécial Abdos Visibles, Méthode et Technique. C'est une formation vidéo hein, avec le plan en PDF pour justement travailler correctement les abdos, que ça soit la partie haute, la partie basse, les obliques, les transverses plutôt, et un petit peu comprendre un petit peu les différentes morphologies, pourquoi certains ont des abdos naturellement comme ça, juste en faisant de la muscu, ils ont des abdos sans faire de mouvements d'abdos, et pourquoi d'autres ont besoin de faire pas mal d'efforts et de voir un petit peu dans quelle catégorie vous êtes pour savoir si vous pouvez plus ou moins, entre guillemets, vous relâcher ou alors plutôt forcer. Mais dans tous les cas, vous pouvez les développer. Donc c'est ça qui est plutôt rassurant, c'est qu'il n'y a pas de génétique anti-abdos, quoi. Tout le monde peut avoir des abdominaux relativement bien dessinés et toniques. Il faut juste comprendre un petit peu sa morphologie, c'est pour ça que je l'explique dans la vidéo, pour faire les mouvements appropriés et surtout savoir la fréquence de travail, etc., pour avoir des résultats satisfaisants et pas abandonner parce que on se dit qu'on est unique et que chez nous ça n'arrivera jamais. C'est pas le cas. Donc voilà, j'aimerais vous rassurer là-dessus. Bon, allez voir, le lien est en description, vous cliquez, ça s'appelle Spécial Abdos Visibles, Méthode et Technique, et vous accédez au cours en vidéo, plus au plan PDF avec les programmes et toutes les notes, comme ça vous n'avez pas besoin de prendre des notes au fur et à mesure de la formation, ça se fait tout seul, voilà. Bon, alors premier sujet, c'est le moment d'aller négocier et de vous entraîner tranquillement dans les salles de sport. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai récupéré un article, et en plus, pourquoi il a attiré mon attention? Parce que ça a été fait à Montpellier. Donc ils ont fait une enquête et donc je cite hein, tous les quartiers de Montpellier sont équipés de salles de sport, mais la foule ou les grosses affluences semblent manquer au rendez-vous. De la réouverture des salles. Bon, c'est vrai qu'à Montpellier on est assez bien loti en termes de salles de sport. Il y en a beaucoup, il y en a pour tous les goûts. Prépa technique, prépa physique, bodybuilding, fitness. On a de tout, quoi. On a même des salles axées pour les certaines disciplines et tout ça. Donc on est quand même assez bien gâté, fourni en salles de sport. Donc je reprends la citation, enfin les citations. Entre aller au bar, dans les restaurants, à la plage ou à la salle de sport, les gens ont tout d'un coup l'embarras du choix. Et en fait, les salles de sport disent « on est devenu concurrent avec les bars et les restaurants maintenant », explique le gérant de salle. Il dit aussi « il n'y a pas grand monde depuis la réouverture ». Alors là, c'est tous les gérants qui contactaient, qui répondent comme ça, quoi. Moi, ça m'étonne pas. personnellement, je l'avais pas prédit, mais j'en parlais autour de moi. Je disais, c'est quand même fou parce que je suis sûr que là, il y a beaucoup de personnes qui râlent. Oh là là, c'est n'importe quoi les salles qui réouvrent pas, alors que le sport c'est bon pour la santé dans cette période et tout ça. Et puis finalement, quand ça réouvre, bah les gens ils vont au bar et au resto. Bon. Je peux comprendre, c'est normal. Il y a ce côté où on a envie de partager, le plaisir, ça manque et tout. Et c'est pour ça que je disais, attendez un petit peu. Pour les salles de sport, je sais qu'il y a des patrons de salles qui m'écoutent. N'oubliez pas que les gens, c'est toute leur routine de vie qui a été mis en branle un petit peu durant cette période. Donc du coup, évidemment, les moments de plaisir, pur plaisir. Alors il y en a assez peu qui vivent le sport comme pur plaisir. C'est quand même une forme de sagesse qui s'obtient, on va dire, avec le temps, de s'entraîner, de prendre soin de son corps, quoi. Et donc du coup, ces gens-là, bon, ben peut-être que pour eux, ça leur manquait plus d'aller prendre un verre avec leurs amis, d'aller au resto, etc. Et ce sont des nouvelles habitudes, c'est-à-dire que les gens étaient habitués à boulot, trajet, maison, et là, ben, ils se disent bon, ben, on va boire un petit verre avec les amis ou les collègues de boulot après le travail, on se fait un petit resto, etc. Donc du coup, ce sont des nouvelles routines qu'ils avaient oubliées, et ben, ça prend du temps, forcément. Il y a une petite carence comme ça, une petite privation, donc du coup, les gens abusent un petit peu des restos et tout, donc forcément, c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent, donc du coup, on repousse un peu le moment où on va aller se réabonner. Et puis, il y a aussi cette crainte que les salles referment, en fait, hein, peut-être en septembre, on sait pas, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vague ou quoi. Et il y a beaucoup de gens qui ont été un petit peu contraints de devoir payer leur abonnement alors qu'ils y allaient pas. Donc contraints, on pouvait toujours l'arrêter, mais c'était toujours plus ou moins, il y avait une procédure à faire. Et donc du coup, bah, ils se disent, j'attends de voir. Mais le j'attends de voir, malheureusement, va pas dans le sens de leur physique, va pas dans le sens de leur santé. Et donc c'est pour ça, moi j'aimerais rassurer un peu les salles de sport et tout. Laisser le temps aux gens d'aller profiter un petit peu des plaisirs de la vie. Ils reviendront à leur rythme s'entraîner. Bon, mais quelque part, ça m'étonne pas parce que moi, je le vois dans les personnes que j'ai parfois en consultation ou autre. Alors les plus motivés sont déjà retournés en salle et ils me disent ça va, c'est cool, c'est plutôt bien fréquenté, il y a pas la cohue en fait, c'est pas une mauvaise fréquentation où tout le monde vient à la même heure, c'est vraiment quelque chose de plutôt sympa. Donc ça traduit quand même, alors c'est bien pour les pratiquants, mais les gérants ils aiment pas trop ça parce que eux, ils aiment bien qu'il y ait du monde, quoi, qu'il y ait de l'abonnement, quoi. Donc c'est quelque chose qui est compréhensif. Et de toute façon, enfin, je veux dire, c'était pas. C'est là où en fait où il y a l'espèce de contrariété dans ce que je disais au début, c'est que les gens ont beaucoup râlé non à la fermeture de ma salle et tout, mais finalement, soit c'était vraiment qu'une minorité de personnes, mais bon, quand je vois le nombre de signatures qu'il y a eu sur les diverses pétitions, je crois pas. Mais par contre, en fait, râler c'est faisable, mais après y aller, montrer parce que râler ou signer une pétition, c'est bien. Je veux dire, on est soudés, tout ça, c'est cool. Mais après, les actions concrètes, c'est aller donner un peu de votre argent à la salle que vous soutenez, quoi, pour aller vous entraîner. Et là, par contre, c'est une démarche concrète qui ferait vraiment avancer les choses, parce que faut pas oublier qu'il y a beaucoup de salles qui ont fait faillite. Hein. Il y a beaucoup de salles qui ont fait faillite. Il y a des salles qui ont été reprises et tout ça, mais il y a quand même des business qui se sont effondrés, des rêves qui se sont arrêtés, hein, en plein vol. Donc bon, c'est quelque chose quand même qu'il faut prendre en compte. Si vous entraîniez avant toute cette période-là dans une salle où vous aimiez bien le gérant, où c'était le rêve d'une vie pour lui, où il était, je sais pas, passionné et tout, c'est peut-être le moment d'aller taper à sa porte et puis de reprendre un petit abonnement, quoi. Et même pas forcément, vous n'êtes pas obligé de prendre un an. C'est ça le truc, c'est que les gens se disent j'attends de voir, mais dans les abonnements, si vous voulez pas prendre le risque, bah vous payez peut-être un abonnement de 3 mois ou 6 mois, comme ça vous permet de passer l'été tranquille à vous entraîner, et ça sera toujours ça de prix, parce que malheureusement, l'incertitude va durer, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y aura peut-être pas de retour à la sérénité comme avant, dans le sens où c'est bon, on sait que les salles vont être ouvertes tout le temps. Donc soit on se dit bon bah vu que c'est incertain, je m'entraîne pas, soit bah finalement je me dis que il faut que je m'adapte à la nouvelle situation, s'adapter au nouvel environnement, et puis voilà, quoi. Et après, il disait aussi qu'il y a pas mal de personnes, et moi j'en fais pas réellement partie parce que j'avais commencé à m'entraîner à la maison avant le Covid, avant tout ça. Mais il y a pas mal de personnes qui, les plus passionnées, hein, qui se sont entraînées à la maison durant les confinements, les fermetures des salles. Ces personnes-là se sont rendues compte finalement qu'il y avait un côté pratique, il y avait un côté... En fait, la plus grosse crainte des gens, c'était est-ce que je vais réussir à trouver la motivation ? Donc premier point, et deux, est-ce que mon physique va rester dans la même forme en fait? Et tous ceux qui ont répondu présent à l'entraînement à la maison se sont rendus compte que s'ils avaient un minimum de matos, ils arrivaient à conserver un bon physique. Et un minimum de matos, hein, je dis pas juste de bandes élastiques, hein, je dis quand même un minimum de matos. Surtout, ils se sont rendus compte qu'ils sautaient moins de séances de sport parce que forcément, quand il n'y a pas les temps de trajet, quand on peut s'entraîner, quand on a par exemple une demi-heure pour s'entraîner, eh ben on peut se dire allez, je fais du 10x10, je me défonce un groupe musculaire et au moins ça sera toujours ça de pris, alors que quand ils allaient en salle, ils se disaient j'ai qu'une demi-heure, le temps d'y aller de revenir, c'est bon, ma demi-heure elle est foutue quoi. Donc il y a eu pas mal de révélations de ce côté-là. Donc le home gym a eu vraiment beaucoup de nouveaux adeptes, on va dire, de nouveaux adhérents au plus grand désespoir des salles de sport, hein. Mais bon, il y a aussi une chose qu'il faudrait je pense que ça traduit aussi que cette ambiance home gym et tout ça pourrait pointer un petit peu sur la demande des gens. En fait, les gens cherchent des choses peut-être plus proches, plus accessibles, en plus petits comités, et peut-être que ces grosses salles hyper on va dire low cost et tout ça, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, hein, en temps de confinement et tout. Peut-être que, je dis pas que c'est la fin, il en faudra toujours, mais peut-être que des petites salles de quartier, alors de quartier ou de vous savez, des petites salles, des petits home gym, on en voit beaucoup, hein, dans les, enfin pas des home gym, mais des garage gym et tout ça, où on peut accueillir, on va dire, une dizaine, une vingtaine d'adhérents maximum en même temps. Peut-être que ça, c'est la réponse aux situations qu'on va vivre. Je m'explique. Moi, personnellement, je m'entraîne à la maison. Donc, je m'entraîne à la maison, j'ai barre, haltère, j'ai des poids, j'ai pas mal de poids, donc voilà, j'ai à peu près 200 kilos de poids, plus des équipements divers, un landmine pour pouvoir faire pas mal de mouvements, j'ai un leg curl, les extensions, bon voilà, j'ai de quoi faire des squats, des tractions, des dips, du développé couché, incliné, décliné, des rowing, enfin bon, tout ça, donc je suis quand même assez bien équipé, aussi pour les abdos, j'ai quand même des élastiques aussi, bon, voilà, vous le savez, ceux qui ont suivi un petit peu mon cours, ma formation qui s'appelle Home Gym Minimaliste, où je leur explique comment avoir un home gym vraiment sérieux quand on n'a pas de pièces à louer pour un home gym, donc où on doit installer, enfin monter, démonter à chaque fois en moins de 2-3 minutes. Donc voilà, moi je sais que je suis convaincu par ça, ça me plaît beaucoup de m'entraîner de cette façon. Mais par contre, si dans mon lotissement, dans mon quartier, là où j'habite, il y avait une petite salle. Donc quand je dis une petite salle, c'est vraiment un petit espace partagé, payant évidemment, puisqu'il y aura toujours un gérant, quelqu'un qui achète les machines et tout, évidemment. Mais s'il y avait ça, vraiment à proximité, c'est-à-dire que je sors, je peux y aller à pied, je m'entraîne un petit peu comme s'il y avait, comme dans les hôtels, vous savez, la salle de sport en bas des hôtels. Ce genre de choses, dans beaucoup de quartiers, je pense que ça motiverait les gens à les entraîner. Dans cette période-là, je pense que, en tout cas, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais s'il y avait ce genre de choses accessible par clé, même payé dans les charges communes, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, mais si dans les charges communes des résidences et tout, il y avait ce genre de choses, ce qui coûterait pas forcément très cher, hein, je pense, hein, par rapport à ceux qui ont une piscine où c'est hors de prix, je parle de parce que c'est toujours pareil, si vous avez une salle accessible dans votre, si vous habitez dans une résidence ou dans un quartier ou autre, dans un lotissement ou même dans un quartier d'une ville ou autre, s'il y a une salle et que vous payez des charges pour cette salle-là, enfin une salle, un petit espace pour vous entraîner, mais que du coup ça vous évite de mettre entre 20 et 50 euros par mois, enfin entre 19 et 50 euros par mois dans un abonnement de salle de sport, et que vous, sur vos charges, c'est de l'ordre de 5 à 10 euros par mois. Pourquoi pas, hein, c'est de l'économie, de la proximité, du temps de trajet en moins. Et je pense que ce genre de choses, ça peut mériter vraiment d'être sérieusement étudié. Et c'est, je pense que ça permettrait concrètement, parce que moi, dans les voisins et tout ça, il y a toujours des gens qui sont un peu intéressés par le sport, mais qui n'y vont pas forcément, parce que passer la barrière de la salle de musculation, c'est pas quelque chose de facile pour tout le monde. Là, quand c'est dans le quartier, dans le lotissement, on sait qu'on va voir les gens plus ou moins qui sont nos voisins. Des fois, on a des affinités avec ses voisins, donc du coup, on peut se motiver les uns les autres. Ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant, bon, à mon sens. Hein. Donc, bon, voilà, à réfléchir, à développer. Surtout qu'aujourd'hui, avec tous les locaux, etc., qu'il y a, vous savez, les petits locaux commerciaux, maintenant, quand ils montent une résidence au rez-de-chaussée, ils mettent toujours des locaux commerciaux et tout. Donc, ça peut être intéressant d'essayer de pencher dans ce sens-là. Bah, après, tout le monde n'a pas ça, mais moi, je vois que, par exemple, dans des quartiers, on va dire des quartiers, je vais pas dire populaires ou autres, enfin bon, des quartiers parfois avec moins d'argent que d'autres, ont souvent des locaux, des salles avec salle de boxe, salle de gym et tout, alors que des quartiers qui ont supposément, je sais pas si on peut dire comme ça, une population avec plus de revenus, il y a pas ça, quoi. Donc bon, c'est sûr, il y a de la végétation, c'est joli et tout, mais il y a des piscines, mais il y a pas de salles. Donc moi perso, alors je parle en tant que passionné, hein, mais c'est vrai que d'avoir un petit équipement, pas besoin de beaucoup, on l'a vu aujourd'hui, enfin on l'a vu avec le confinement, on n'a pas besoin d'énormément de choses. Ça serait intéressant d'avoir dites-le-moi si vous ça vous si est-ce que vous serez capable, mettez-le moi en commentaire, est-ce que vous serez capable d'abandonner complètement votre salle de musculation et votre home gym pour aller vous entraîner dans une petite salle au pied de votre résidence ou au bout de votre lotissement où vous habitez, ou dans votre rue, en fait, où vous savez qu'il y a que les gens de votre rue qui y ont accès, en fait, hein, à vos voisins et tout ça, et de payer, par exemple, entre 5 et 10 euros de plus de charges, en fait, sur votre loyer, pour avoir accès à ça. Est-ce que vous serez prêt à ça, en fait? Moi, personnellement, oui. C'est quelque chose largement... quand on voit le prix qu'on paye pour les services d'abonnement au divertissement et tout, franchement, pour la forme physique, avoir accès à ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ferait à peu près, on va dire, on part sur un montant de 10 euros, ça ferait 120 euros par adhérent. C'est pas rien, ça paierait le loyer. C'est voilà. Après, évidemment, il faut une personne qui investisse pour le projet à chaque fois. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, après, je suis pas businessman, hein. Je suis pas, comment on appelle ça, les business plans et tout. Je saurais pas faire. Mais vu que des hôtels le font, moi j'ai toujours, je suis pas allé souvent dans ma vie à l'hôtel, comme j'en avais parlé dans le podcast sur les voyages et tout ça avec les deux coachs avec qui je crois que c'est Smart Coaching, Smart Body, je me rappelle plus, enfin ils ont, allez voir, hein, j'ai partagé le podcast il y a pas longtemps, on parlait des vacances et tout ça. Moi c'est vrai que l'hôtel j'y suis pas souvent allé, j'y suis allé une fois il y a pas si longtemps que ça, dans un hôtel assez relevé pour une occasion précise. Donc c'était un hôtel 4 ou 5 étoiles. Et il y avait une salle de musculation. Et c'est vrai que c'était cool, quoi. Il y avait le spa. Il y avait le spa et la salle de muscu. Moi, je suis allé à la salle de muscu. J'avais pas envie d'aller au spa. Et bah voilà, de la curiosité des machines que j'avais pas dans la salle où je m'entraînais, etc., quoi. Donc ça remonte à peu près à 3-4 ans, je crois. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est quand même une plus-value d'avoir une salle de sport dans un hôtel. Et je sais qu'il y a des il y a des immeubles, donc des immeubles avec des appartements, notamment aux États-Unis, où il y a la salle de gym qui est compris dans le tarif, un petit peu comme avoir l'option garage pour garer à la bagnole. Bah là, c'est l'option avoir l'option salle de sport, quoi. Moi, je trouve ça cool. Voilà. Perso, c'est je suis pour. Voilà. Donc fatigue au volant et alimentation. Bon. Alors, c'est une étude que j'ai trouvée sur je sais plus quel site, je sais plus si c'est lanutrition.fr ou un autre. Enfin, c'est un article une étude tirée d'un article, plutôt. Les scientifiques ont étudié le cas de 389 hommes camionneurs. Ces participants ont répondu à plusieurs questionnaires concernant leur alimentation, leur niveau de fatigue et leur comportement au volant. Alors, le résultat, dans l'ensemble, les comportements de conduite sont en corrélation avec leurs habitudes alimentaires. Les conducteurs qui préféraient les légumes et les aliments bruts, donc les aliments bruts, pour rappel, ce sont les aliments non transformés, donc pas retouchés par l'homme, avaient un comportement au volant plus prudent et ressentaient moins de fatigue que les autres. Donc là, il parle pas, voilà, les aliments bruts. A contrario, la forte consommation d'aliments d'origine animale était fortement associée à une fatigue plus grande, des taux plus élevés d'erreurs, de manque de concentration et d'infractions mineures à la circulation. Alors d'origine animale, n'entendez pas le blanc de poulet, le poisson blanc, les crevettes ou quoi. C'est un fourre-tout avec également la charcuterie, les plats préparés et tout. Donc faites attention au pont un peu rapide qui pourrait être fait. Les gens diront manger de la viande, moins de prudence. Attention. Faites attention à ça. Donc ensuite, ils disent les camionneurs adeptes des snacks sucrés semblaient quant à eux plus enclins à la fatigue et à adopter un comportement dangereux au volant. Bon, ben, ça c'est pas nouveau. Snacks sucrés, hyper suivi d'hypoglycémie, donc baisse de concentration, agressivité, etc. Voilà, c'est. Mais bon, moi je trouve que cet article, alors il parle des camionneurs parce que les camionneurs c'est facile, c'est une profession, donc on peut facilement les étudier. Mais après, moi je pense aussi à toutes les personnes qui sont sur la route. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes et même des jeunes en début de carrière sont sur les routes parce qu'il y a beaucoup de jobs. Où on est assez facilement et assez jeune responsable d'un département dans une boîte ou autre, que ça soit dans le commerce ou dans les ressources humaines ou autre, et donc on est sujet à se mouvoir à travers sa région ou même dans toute la France, et donc à faire beaucoup de voitures. Donc il y a les commerciaux, mais il y a également les personnes un peu itinérantes comme ça qui naviguent autrement qu'en train ou en avion, donc en bagnole. Et ces personnes-là, ben voilà, vous savez que forcément, si vous commencez à avoir une alimentation pas cohérente parce que vous êtes dans la précipitation, vous n'avez pas prévu à manger, vous arrêtez sur l'aire de repos, vous savez pas quoi choisir aux aires de repos. Et d'ailleurs, là-dessus, j'ai fait un très bon cours, une très bonne formation sur comment bien manger hors de la maison. Et ça, franchement, allez le voir, parce que si vous êtes tous les jours sur les routes, en tout cas du lundi au vendredi, souvent sur les routes, que vous arrêtez souvent dans des snacks ou dans des aires de repos, et qu'à chaque fois vous êtes dégoûté de prendre des choses, vous savez très bien que c'est pas bon pour vous. Allez voir cette formation que j'ai fait sur le sujet. Je vous donne des tas d'astuces pour justement faire le bon choix dans ces espèces de commerces d'autoroute là. Donc ou alors même dans les snacks que vous allez trouver pour essayer d'avoir le mieux pour à la fois votre ligne et votre niveau d'énergie. Bref, donc vous allez sur mon site, vous tapez comment bien manger hors de la maison ou manger hors de chez soi, un truc comme ça, vous allez trouver assez facilement, vous verrez. Et si vous trouvez pas, vous m'envoyez un mail, je vous enverrai le lien, pas de souci. Bon bref, tout ça pour dire que évidemment, si vous mangez mal durant, enfin mal, ou en tout cas les mauvais aliments, un peu trop de trucs préparés, c'est quoi la conséquence? C'est que vous allez avoir une humeur et un niveau d'énergie qui va fluctuer sur la journée, et si le mauvais flux, donc le creux de vague quand vous êtes complètement épuisé, arrive au moment où vous deviez vous motiver pour aller à la salle de sport, et ben ça va faire de plus en plus de séances ratées et de séances ben voilà foutues en l'air. Mais le problème qu'il y a, c'est que si vous avez un creux de vague au moment où vous deviez aller à la salle de sport, il y a de fortes chances que le lendemain ça va se reproduire, parce que on a tendance à reproduire plus ou moins les mêmes rythmes. C'est-à-dire que si observez par exemple dans une grande entreprise, moi j'ai travaillé dans des grandes entreprises et j'observais parce que avant de démarrer ma carrière sur dans le fitness, j'ai quand même bien bourlingué dans pas mal de sociétés, que ça soit des petites structures, des artisans, enfin voilà, j'ai fait beaucoup de métiers manuels, puis après j'ai travaillé aussi dans des grosses sociétés, donc j'ai pu observer un petit peu comment ça fonctionnait. Et je sais pas, j'ai dû en parler déjà dans un podcast, mais on a la manutention de base, donc les employés d'usine, etc., qui mangent en premier, donc vers 11h30 midi, suivi des premiers, des petits cadres, donc les chefs d'équipe, etc., qui vont manger après, donc eux, ils vont être plutôt sur entre midi 15, midi 30, voire midi 45, et puis à la fin, on a les cadres sup la direction, ce qu'ils appellent le codir et tout ça, qui va manger entre 13h45 et 13h30, 14h. Et on voit bien que ces habitudes, en fait, elles perdurent, c'est rarement, en fait, aléatoire, c'est toujours comme ça. Alors évidemment, il y a les horaires, hein, les horaires de pause et tout, mais assez simplement, tous ceux qui ont eu Si vous avez eu des postes où vous avez commencé en bas de l'échelle et que vous avez évolué au fur et à mesure, vous êtes peut-être rendu compte que quand vous avez plus un travail est prenant, etc., donc vous êtes mentalement pris, hein, je parle pas physiquement pris, c'est autre chose. Physiquement pris, c'est vrai que moi je me rappelle quand j'étais en carrosserie ou en mécanique poids lourd, ou même dans la manutention et le déménagement, quand il commençait à être 11h, 11h30, entre collègues, on disait, il commence à se faire faim, quoi. On commençait à avoir la dalle. Et on avait hâte, un petit peu, c'était de poser les charges, les outils pour aller se mettre à table, quoi. Alors qu'après, quand j'ai eu d'autres postes où j'étais très concentré sur un écran et tout ça, c'est vrai que le temps passait un petit peu plus vite, ou une réunion qui traîne un petit peu, on sent pas la fin venir, et il est rapidement 13h, et puis ce sont des habitudes qui s'installent. Et en fait, c'est pareil quand vous êtes sur la route, souvent, c'est que si vous avez pris l'habitude de prendre votre pause déjeuner à 13 ou 14 heures, eh ben, il y a de fortes chances que ça dure. Donc forcément, les effets nocifs des rebonds, des hyperglycémies, hypoglycémies vont se reproduire à peu près aux mêmes heures. Donc si jamais, à chaque fois, au moment d'aller vous entraîner, donc peut-être quand vous posez, vous terminez votre service vers 17 ou 18 heures, vous avez toujours le creux de vague à ce moment-là, bah c'est intéressant de revoir un petit peu votre alimentation pour que vous n'ayez plus justement ce creux de vague à ce moment-là, pour que vous soyez dans les meilleures conditions à chaque fois pour aller vous entraîner. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vois comme ça. Alors évidemment, il y a quelque chose aussi, c'est que quand on travaille et que on a un travail un peu éprouvant et tout, le repas du midi vient scinder la journée en deux. Donc, et le fait de scinder la journée en deux, plus on tarde à manger, plus la partie après-midi, donc la deuxième partie de journée, va être courte. Et plus on va manger tôt, plus la deuxième partie de la journée va être longue. Donc c'est pour ça que souvent, certains tardent en fait à manger 13, 14 heures, parce qu'ils se disent, après, il me reste plus que 2, 3, 4 heures à travailler, et je préfère, parce que comme ça, au moins, l'après-midi me semble plus courte que la matinée. Bref, c'est juste des indications comme ça, mais c'est vrai que prenez l'habitude quand même de ne pas laisser la nutrition au hasard. Si vous êtes souvent sur les routes, moi je me rappelle que j'avais travaillé un petit peu comme ça en déplacement peu de fois, je l'ai fait peu de fois, mais c'est vrai que moi j'aimais bien préparer la veille au soir tranquillement. Tiens, ben je pars à telle heure, donc je serai ici à peu près à telle heure, donc qu'est-ce qu'il y a dans le coin, qu'est-ce qu'il y a dans le secteur, ben je m'arrêterai ici, ça a l'air sympa, j'irai là pour chercher à manger, comme ça j'aurai, il me restera 45 minutes pour me restaurer tranquillement avant d'aller au rendez-vous, etc. Et c'est vrai que une forme d'organisation comme ça ne laisse pas de place au hasard. Après, comme je le dis à chaque fois, la meilleure stratégie, glacière branchée sur un allume-cigare avec votre gamelle dedans, vous êtes peinard, vous avez de l'eau fraîche et en plus vous avez votre diète. Vous êtes tranquille. Voilà. En plus, c'est l'été. Vous pouvez vous faire des bonnes petites salades, des salades repas, quoi, que vous conservez dans votre petite glacière branchée sur allume-cigare, et vous êtes tranquille. Bon, je m'arrête ici pour ce sujet. Le dernier sujet. Ah non, il y en a encore deux. Mangez mieux en regardant des vidéos de cuisine saine. Alors ça, je l'ai partagé dans le mail VIP du vendredi. Je l'ai partagé parce que justement, vous vous rappelez quand dans certains podcasts, je vous disais pourquoi on fait pas la pub des produits sains. Et ben en fait, là, il y a une étude qui montre que ça fonctionne, puisque mangez mieux en regardant des vidéos de cuisine saine. Alors ils disent, hein, la vidéo sur les fruits et légumes a réduit le goût des collations sucrées et a entraîné des intentions plus élevées de préparer des collations saines. En conclusion, une seule exposition à des vidéos culinaires courtes a eu des effets sur divers résultats liés à l'alimentation. En gros, plus vous allez voir des vidéos de cuisine saine, donc vous savez, les short vidéos, comme ils disent, là, les petites vidéos où quelqu'un cuisine des brocolis, mais où l'assiette est sympa et tout ça, eh ben, ça va plus facilement vous encourager à manger sainement. Et à l'inverse, hein, si vous voyez des aliments malsains, ça va aussi vous encourager. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met le paquet sur de la publicité de cuisine saine, les gens ont quand même des intentions de mieux manger. Donc c'est quand même intéressant de voir que ça fonctionne, et c'est là où il y a une grosse hypocrisie, où on se dit, mais alors pourquoi c'est pas fait? Bah, je sais pas. Pourquoi c'est... Alors moi, je vois que sur YouTube, on a de plus en plus de publicités, des services publics, pour tout un tas de choses, mais pour le mieux manger, non. Enfin, en tout cas, pas dans ce sens-là. Prenez un bon vidéaste. Alors pas moi, parce que je suis pas bon vidéaste pour la cuisine. Alors moi, les recettes, je les fais facilement. Mais après, de filmer un truc esthétique et tout en cuisine avec une belle déco dans l'assiette, honnêtement, moi c'est des plats que je mange, et pas des plats que après je balance à la poubelle, ou que, enfin voilà, j'ai pas un studio d'enregistrement pour la cuisine, quoi. Donc moi, j'ai des bonnes idées de cuisine. Mais après, il y a des techniques, hein. C'est un métier de mettre en valeur. D'ailleurs, j'ai un ami qui est boucher qui me dit, c'est pas évident hein, de faire des belles photos de recettes. Il y arrive, mais c'est toute une organisation. Et donc, du coup, ben voilà, c'est un métier. Et rapprochez-vous au lieu de faire appel à des campagnes de à des publicitaires et tout ça pour des textes et tout. Rapprochez-vous de personnes assez bonnes dans ce domaine-là. Armez-vous d'un diététicien et tout ça, mais pas n'importe qui, hein, pas quelqu'un qui va remettre en avant du pain blanc et des pâtes blanches, et vous pouvez faire des petits spots de pub en 5 secondes même, hein, juste avant les vidéos YouTube, là, ça peut tenir, avec une belle assiette, ça donne envie, ça stimule les sens, et ça peut motiver les gens, mais bon, voilà, il n'y aura pas d'argent à se faire dessus, c'est le problème. Bref, neurosciences et perte de poids, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Eh bien, on va dire quoi là-dessus? On va dire que 80 à 95% des gens qui perdent du poids le reprennent dans les 5 ans. Waouh! Bon, bref, je prends quelques citations par rapport à ça d'un article de psychologie. Les régimes produisent des changements dans le cerveau qui entraînent une consommation incontrôlée après la privation. Notre cerveau fait donc tout ce qui est en son pouvoir, pour que nous reprenions au plus vite les kilos perdus et revenions dans la gamme de poids considérée comme correcte. Une fois qu'une personne est restée à un poids plus élevé pendant une longue période, le cerveau commence à défendre cette nouvelle norme. 80 à 95% des gens qui perdent du poids le reprennent dans les 5 ans. La raison ? L'hypercontrôle alimentaire et mental que la plupart des méthodes amaigrissantes imposent. Le psychiatre Gérard Apfeldorfer, excusez-moi si j'écorche, dénonce cet engrenage. Ben moi, ce que je dénonce aussi, c'est qu'il y a une forme de non-dit là, ici, c'est qu'évidemment, moi je suis d'accord, une personne en bonne forme, donc c'est-à-dire un poids de forme, c'est quoi? Déjà, il faut définir c'est quoi un poids de forme. Un poids de forme, pour une personne, c'est un poids de forme réelle, c'est-à-dire un poids où la personne se sent bien, pas épuisée, bien dans sa peau, etc., mais également un poids qui n'est pas nocif pour sa santé, non perçu, c'est-à-dire typiquement d'avoir un tour de taille excessif, qui, on le sait, est pro-inflammatoire et à terme peut mener à tout un tas de maladies métaboliques, etc. Donc un vrai poids de forme, c'est un poids qui engendre un tour de taille qui ne dépasse pas une certaine mesure, mais également une forme physique au quotidien qui est satisfaisante, un bon niveau d'énergie et tout ça, que le corps ait suffisamment. Mais il y a une forme de contradiction dans l'article, puisque une fois qu'une personne est restée en surpoids longtemps, donc le poids élevé longtemps, le cerveau commence à défendre cette nouvelle norme. Donc c'est-à-dire que, admettons, vous étiez à plus... je sais pas moi, plus 20, plus 30, plus 40, plus 50 kilos au-dessus de votre poids de forme, peu importe. Vous êtes resté comme ça pendant 5, 10, 15 ans. Bon, votre corps a pris ça comme norme. Donc du coup, vous faites un régime. Il va vouloir freiner pour revenir à cette norme. Donc du coup, de dire que les régimes ne fonctionnent pas, c'est assez malsain. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à un moment donné, quand on est allé dans un extrême comme ça, et d'ailleurs, j'avais un super témoignage que j'ai partagé d'une personne qui me suit, là, un des VIP qui me disait qu'il était content parce qu'il était passé de 124 kilos, 124 kilos, je crois que c'est ça, à 74 kilos. Non, mais c'est juste... C'est des chiffres qu'on obtient en général avec des personnes qui font des opérations, etc. Hein. Et là, non, par la force du régime, de l'entraînement, de la discipline, il y arrivait. Moi, en fait, je le partage pour motiver les gens qui écoutent, pour leur montrer que c'est possible, quoi. Mais après, ce 80 à 95% des gens qui perdent du poids le reprennent dans les 5 ans. Bon, déjà, je suis content de savoir que je fais partie de la minorité qui ne reprennent pas. Et je peux en parler parce que moi, c'est pas 5 ans, c'est plus du double. Donc voilà. Et deuxième chose, je trouve que des fois il y a des chiffres qu'il faudrait pas partager. Alors il y en a, ils vont me dire ouais non mais il faut tout partager Théo. Oui non mais d'accord, mais partager ça, on sait très bien que les gens abandonnent facilement leur régime et qu'ils se découragent très facilement. Il suffit de leur dire de famille, tout le monde a été en surpoids, t'y arriveras pas, pour que les gens ouais à quoi bon et puis paquet de chips. Là si en plus on leur dit que 80 à 95% des gens qui perdent du poids le reprennent dans les 5 ans. Ça va pas motiver les gens. Les gens, ils vont se dire à quoi bon, j'ai peu de chances de faire partie des 20 à 5% là, à quoi bon ? À quoi bon ? Et c'est normal, c'est compréhensif. Qui a envie de se lancer dans une démarche assez quand même voilà, volontaire et disciplinée s'il y a un taux de réussite de l'ordre de enfin voilà, 20 à 5% quoi. C'est ridicule, c'est ridicule. Donc des fois les statistiques, faut faire attention. Faut faire attention à ce qu'elles disent parce que évidemment, déjà ça traduit une chose, c'est que tout ce qui est recommandé classiquement, ça fonctionne pas et que peut-être que 20 à 5% des gens savent où aller chercher. Donc sont dans les minorités, donc dans les petites audiences, donc dans les petits groupes, etc. Et que dans les grandes populations, les grands groupes, là où il y a énormément d'abonnés, là où il y a énormément de suivis, bah ça marche pas. Et moi, c'est ce qui... Vous savez, moi, je fais toujours le lien avec les vidéos intéressantes et le nombre de vues et de likes. Quand je regarde une conférence, je suis toujours surpris. Plus elle est complexe, intéressante, elle m'apprend des trucs, moins il y a de vues. Mais ça, c'est toujours... J'ai vu que très rarement des choses hyper intéressantes où il y a beaucoup de vues. Il y en a quelques-unes, mais c'est plus souvent dans le domaine de la psychologie. Ou de la philosophie et tout ça, mais vraiment dans le niveau santé, science, on va dire science du corps, science voilà du sommeil, etc. Plus elle est complexe et intéressante, moins il y a de vues et de likes. Les gens ils commentent même pas parce qu'ils ont pas pipé un mot, donc du coup et ça. Je me dis ben peut-être que cette petite fraction de personnes, c'est eux qui comprennent. C'est eux qui arrivent à faire des régimes parce que c'est eux qui, en fait, ils comprennent les choses. Ils savent très bien que, par exemple, un truc tout bête, mais la plus grosse crainte d'un régime, d'une personne au régime, donc par exemple, on va prendre le cas de Jackie. Jackie décide de perdre du poids. Il se met au régime et il se met à faire du sport. Donc régime, pour lui, déjà, c'est frustration et tout ça. Bon, ok, tout le monde, pour tout le monde. Un régime, au début, bah tu te frustres un petit peu. C'est normal, hein, si t'étais habitué à manger Kinder et compagnie, du jour au lendemain, tu te mets à manger sainement, tu te dis, mais il est où le sucre, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une forme de frustration, une forme de volonté, mais déjà, on se dit, je suis capable de le faire. Donc l'estime de soi, elle monte un peu. Donc ça, il faut pas l'oublier. Peu de personnes le disent. On est capable de faire quelque chose de bien qui va dans le sens de son physique, quoi. Et puis, il continue à suivre son régime, il perd du poids. Il perd du poids jusqu'à un point où il commence à se sentir bien parce que sa femme lui dit « Ah, c'est cool, t'as bien réussi ». Ses amis lui disent « Tiens, comment t'as fait? J'aurais jamais pensé que t'y arriverais ». Et puis, pour la première fois de sa vie, quand il enlève le t-shirt au mois de juillet, au mois d'août, au bord de la piscine, bah il est fier parce qu'il n'a pas besoin de rentrer le ventre et de se retenir de respirer. Bon, le problème, c'est que il se dit « Bon, quand est-ce que je peux remanger, quand est-ce que je peux remanger normalement ?» Et c'est là, en fait, où vient le problème. Parce que si on demande à Jackie, Jackie, c'est quoi la norme pour toi? Bah, c'est de remanger ce qui me... Enfin, voilà, de remanger normalement, comme tout le monde. Et là, il faut dire à Jackie, mais Jackie, manger comme tout le monde, c'est ce qui t'a conduit à être en surpoids et puis oser enlever ton t-shirt. Si tu remanges comme avant, bah, ça va revenir. Et en fait, je pense que, malheureusement, il n'y a que 20 à 5% des gens qui comprennent ça. Et que tous les autres pensent que la nourriture est quelque chose... qui, enfin voilà, peu importe, mais bon, visiblement, ça peut quand même mettre en surpoids. Mais après, il n'y a pas de nourriture santé. C'est ça qui est quand même contradictoire et paradoxal dans leur discours. C'est que, oh, peu importe, manger, on n'est pas tous égaux, donc il y en a qui grossissent, il y en a qui grossissent pas et tout. Mais par contre, ils sont quand même convaincus qu'un régime, ça fonctionne. Donc ça veut dire que la nourriture n'est pas quelque chose qui rentre en compte dans la santé et tout pour eux, mais par contre, ça fait maigrir. Donc c'est là où il y a un paradoxe. Mais pour beaucoup de personnes... Un régime est une période, un peu comme un examen, il y a un permis de conduire, puis une fois que c'est acquis, on l'a dans la poche, et bon, non, ça se passe pas comme ça. En fait, on peut essayer de se convaincre, je sais plus qui disait ça, on peut se mentir, on peut mentir aux autres, mais en fait, on peut pas tromper la science, la physique, l'organisme. Lui, il s'en fout, en fait, que vous vous êtes persuadé de quelque chose. Il en a strictement rien à foutre. Lui, ce qu'il va faire, c'est ce qui est dicté par votre comportement. C'est-à-dire que si vous étiez en surpoids, vous avez fait un régime, vous avez perdu du poids, Jackie est tout content, et derrière, il se remet à manger kebab, à réacheter des sauces et en mettre plein le frigo, à recommencer à consommer des féculents à tous les repas, etc. Eh ben, Jackie, il va redilater et se dire, le régime, ça fonctionne pas, ça sert à rien. Non, mais en fait, peut-être que le régime fonctionne, déjà, le régime fonctionne très bien, mais c'est surtout que c'est pas le régime qui fonctionne pas. C'est ton style de vie alimentaire qui n'est pas cohérent. Et ton style de vie alimentaire, c'est te dire, OK, pendant 10, 15, 20 ans de ta vie, t'as bien profité. T'as bien mangé. Moi, j'en ai fait partie. Hein. Je peux en parler avec une forme de légitimité parce que j'ai vécu ça. J'ai profité à mort de l'alimentation transformée pendant des années. J'en ai profité. À un moment donné, je me suis dit, cette nourriture m'apporte. Elle est arrivée à un stade où elle m'apportait plus de négatif que de positif. C'est-à-dire que moi, me regarder dans le miroir, ou même de me sentir dans mon corps sans énergie et tout, en surpoids et tout, c'était arrivé à un stade où c'était plus la balance était tombée dans le plus de négatif que de positif. Donc, j'ai décidé de faire ça, mais à un moment donné, je savais très bien que si je reprenais les mauvaises habitudes, ça allait revenir. Ça, c'est pas très difficile à comprendre. Enfin, je veux dire, il y a... Mais peu de personnes le comprennent. Et à partir du moment où une personne vous dira « Quand est-ce qu'on peut remanger normalement ?» Il faut définir ce qu'est la norme. Alors, ok, on leur dit, Jackie, normalement par rapport à ton ancienne norme ou normalement par rapport à ce que devrait manger un être humain de ton poids, de ta taille, avec ton activité physique et ton style de vie. Bah, ici, il te dit la deuxième option, tu dis ok. Bah alors, dans ce cas-là, on va élaborer un plan qui correspond à ton métier, qui correspond à ton niveau d'activité physique, qui correspond à ton âge, à ton passif et à tes envies également. Est-ce que t'as des désirs particuliers avec la nourriture, et d'essayer de composer quelque chose de cohérent. Et en fait, là, on pourra se dire, le régime fonctionne. Mais en fait, le régime, c'est pas le régime, c'est deux étapes. C'est la première étape, on perd du poids, on se restreint forcément. S'il n'y a pas de restriction, à un moment donné, le corps il aura aucune raison d'aller taper dans le lard. Donc il y a une forme de restriction induite par voilà un apport énergétique un peu moins élevé. Ce qui ne veut pas dire une restriction, on s'affame et tout ça. C'est une restriction de certains aliments. Et d'ailleurs, quand on le fait correctement, on se rend compte qu'on peut quand même avoir pas mal de goût dans sa diète. Et après, la deuxième phase, c'est pas la phase de maintien comme ils appellent ça, parce que pour moi une phase de maintien, ça veut dire une forme de résistance. On est en équilibre. Ah là là, il faut pas reprendre le poids. Non, mais ça, c'est pour moi, c'est souffrance. Et après, la deuxième chose, c'est une phase où on réapprend à manger correctement, de se dire ok, dans mon assiette là, j'ai ce qu'il faut pour avoir de l'énergie pour bosser, de l'énergie pour m'entraîner, du plaisir parce que j'aime pas manger juste des choses cartonnées comme ça pour me nourrir, j'aime bien, et d'avoir de réapprendre. C'est sûr, c'est un apprentissage, donc un effort de volonté. Ça veut dire ne plus aller dans les mêmes rayons quand on fait les courses et d'aller dans des nouveaux rayons pour choisir les bons aliments. Et j'en parle tellement souvent dans les podcasts, mais il y a quelque chose qui est véridique quand même. La nutrition, c'est la chose la plus mal maîtrisée. Alors, il y a de tout. Il y a soit, il y a des super experts qui vont aller creuser dans la molécule au carré de machin pour expliquer leur théorie et leur concept, qui fonctionne pas, on s'en fout, mais c'est, voilà. Et après, il y a d'autres personnes qui sont un peu plus light, qui seront un petit peu plus dans les croyances qu'ils appliquent, et puis ça marche pour eux, donc voilà. On a de tout. Personne n'a raison ou a tort, hein. Le but, c'est d'avoir des résultats. Encore une fois, moi, je vous le dirai à chaque fois. Moi, j'ai un protocole, par exemple, pour perdre du gras, qui me correspond et qui s'est trouvé qui correspondait à pas mal de personnes qui me suivaient, tant mieux. Mais il y a des personnes qui ont d'autres protocoles pour perdre du poids. Bon, voilà, moi, je suis pas du tout... De toute façon, s'il y avait qu'une seule méthode, une méthode égalerait à l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. Hein. Il n'y a pas besoin de chercher, il n'y aurait pas autant de bouquins. S'il y a autant de bouquins, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de méthodes. Sauf que pourquoi il y a des contradictions entre les gens? Moi, je déteste les débats où chacun veut défendre sa méthode et à coûte que coûte. Ça sert à rien en fait, hein. Le but, c'est de vraiment avoir de se dire ok, il existe des tas de méthodes pour perdre du poids. Elles se rejoignent toutes plus ou moins sur un aspect, c'est l'apport énergétique, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien cramer son gras, donc il faut bien être dans des bonnes conditions pour le brûler. Mais après, qu'on utilise un jeûne intermittent, une diète low carb, une diète low fat, elles vont avoir toutes des avantages et des inconvénients. Et ça, déjà, tiens à vous rassurer, toutes des avantages et des inconvénients. Donc après, c'est toujours en fonction de qu'est-ce qui me ressemble. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça me convient. C'est quelque chose que j'applique et qui me réussit à chaque fois. Donc, j'ai pas besoin d'aller continuer de tester d'autres trucs que j'ai pu tester par le passé, parce que pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais c'est encore une fois, c'est que si la personne teste un régime qui lui correspond pas du tout, c'est-à-dire elle aime pas ce qu'elle mange, elle aime pas les horaires de repas, elle aime pas qu'on lui impose de prendre des collations et tout ça, sortie de là, elle prend du poids, elle va dire les régimes ne fonctionnent pas sur moi. Non. Et puis vous voyez aussi des gens dans les reportages qui disent j'ai essayé tous les régimes sous pot chou, les régimes sans glucides, les Ducan, les machins et tout, mais c'est toujours la même chose, c'est que ils ont testé des régimes, mais ils n'ont pas testé une alimentation cohérente après. Donc, enfin, je veux dire, c'est toujours la même. Tous les régimes marchent, mais tous les régimes échouent également. Si on reprend, on repart à zéro. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Alors, les gens vivent en cycle. Surpoids, régime perte de poids, content, puis on fait ça, et puis re-surpoids. Et puis voilà, c'est le cercle vicieux jusqu'à un certain stade de la vie où on se dit, j'ai essayé, ça marche pas pour moi, je suis comme ça, je m'accepte comme je suis. Ouais, enfin, on n'a pas donné toutes les cartes à cette personne en lui disant non, tu peux apprendre à manger autrement, sans faire de régime. Et d'ailleurs, tu peux perdre du poids sans faire vraiment de régime si tu as le temps et que t'es pas pressé. Tu commences par assainir ta diète et tout, et tu verras que même en comblant ta faim, ton apport énergétique sera moindre par rapport à ton alimentation transformée et de mauvaise qualité. Et tu verras qu'à terme, ton corps s'en trouvera plus esthétique, plus performant, plus intelligent, même au niveau de la réflexion et tout. Et voilà, c'est tout. Le combat. Moi, je me rappelle qu'une personne m'avait dit « Ah, t'as du travail pour les années à venir ». Oui et non, parce que de plus en plus, la volonté, l'effort, le sacrifice, etc., devient quelque chose d'hyper exceptionnel chez les gens. Ils ont du mal à se faire violence, je le vois bien. Déjà, regarder un film, c'est chaud sans le téléphone portable, parce que le téléphone permet... Vous avez vu, j'ai une théorie là-dessus, après, elle me correspond, il n'y a que moi que ça... Enfin, c'est pour faire le pont par rapport à la concentration. Pour moi, les films baissent en qualité de plus en plus. Quand je me connecte parfois sur Netflix et tout, et je vois des notations sur des trucs, sur des séries et tout, je me dis, mais c'est pas possible. Les gens qui ont noté, ils faisaient autre chose en même temps. Bah oui, en fait, ils sont en même temps sur le téléphone. Donc en fait, dans la médiocrité des programmes télé et cinéma et séries et tout qu'on a aujourd'hui, c'est aussi dû que les gens, de toute façon, c'est pas grave que ce soit pas super intéressant, puisque au cas où, durant la série ou durant le film, il y a une petite baisse d'intérêt, on sort le téléphone, tiens, qu'est-ce qu'il y a sur WhatsApp, sur Instagram, sur tous ces trucs-là, et puis dès que ça devient intéressant, on pose le téléphone. Non, c'est pas normal, ça. On ne consulte pas on rend pas hommage à l'auteur d'une série et tout ça en faisant ça, parce que le problème, c'est que si on regarde ça et on note bien, je veux dire, il y a... Prenez comme exemple la série, une série grand public, et prenez une série un peu plus underground comme True Detective ou quoi. Faites regarder la saison 1 de True Detective à quelqu'un addict au téléphone et dites-lui, n'utilise pas ton téléphone. Le gars, il pète un câble et c'est pas possible. Il y a tellement de plans longs, etc. Moi, j'adore cette série. Mais d'ailleurs, là, je suis même en train de regarder une autre série. Je vous la recommande pas si vous êtes un peu... c'est une série un peu de David Lynch, elle est un peu... Waouh. C'est chaud, quoi. Il faut aller dans son monde, au gars. Hein. Moi, perso, alors, vu que j'adore la nature et tout, j'adore les décors, c'est super. Bon, là, il y en a déjà qui ont compris, ceux qui suivent, c'est Twin Peaks. Elle est, moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Mais c'est un peu perché comme sujet, hein. C'est chaud. Bref, tout ça pour dire, pourquoi je fais ce parallèle avec la télévision? Parce que c'est un truc que tout le monde connaît. Pour montrer à quel point la concentration baisse. En fait, on a de plus en plus besoin de surstimulation en même temps. Et de multiplier le nombre de sens en action pour être diverti. C'est pour ça aussi que la lecture commence à baisser, parce que la lecture, c'est que les yeux, donc on enlève l'ouïe, donc on n'est plus stimulé par deux sens en même temps, donc la lecture est plus difficile que de regarder la télé, qui stimule à la fois les oreilles, le système auditif et la vision. Donc du coup, plus on enlève de sens, moins on aura de concentration. Et là, en fait, pour dire aux gens va t'entraîner et va bien manger, on est tellement dans l'opposé du confort actuel que voilà, c'est hyper complexe, quoi. Enfin bref, je vais m'arrêter ici pour ce podcast, mais avant de vous quitter, je vous dirai d'aller voir cette vidéo sur les abdos, spécial abdos visibles là, qui se trouve en lien sous la description, et puis dans la description, pas sous la description, sous la vidéo. Et puis comme d'habitude, hein, si vous avez envie de commenter pour donner votre avis sur ces fameuses salles de sport, elles sont bien fréquentées en ce moment ou peu fréquentées, et puis voilà, on en discute en commentaire. Je vous laisse ici, à très bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, nutrition, du développement, ben voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours hein, que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont, ben voilà, sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.